Question à la théologie par le père Philippe, 15 octobre 1991, troisième cours.
Vous comprenez que sur le mystère du Christ dans saint Thomas, il faudrait regarder maintenant tout le grand mystère de la croix. En théologie mystique, c'est ce qu'on regarde tout de suite. Et voir comment saint Thomas a regardé le mystère de la croix. J'ai pas le temps. Hein. Mais je voulais simplement vous le rappeler, parce que on a arrêté ce matin. Parce que j'aime mieux, même s'il y a des questions qui restent, et en reste des quantités, vous comprenez, c'est vous donner des pistes de travail. Et vous montrer un petit peu comment ça peut nous intéresser. Et sortir de cette épreuve que représente saint Thomas. Pour beaucoup. Le voir comme celui qui accomplit une mission que Dieu lui a demandée. Ce que dit saint Thomas sur le mystère du Christ, c'est quelque chose d'essentiel, mais ce n'est pas la théologie du mystère du Christ. Alors, je voudrais avec vous maintenant, voir le mystère de Dieu, la Trinité, la création, vous voyez, deux cours. Je reprendrai toujours avec vous ce que nous avons vu ce matin, ce qui me dit du moins la dernière fois. Le mystère de Dieu, je commencerai tout de suite par la théologie biblique. C'est évident. C'est une des choses qu'on peut tous faire, découvrir à travers toute l'écriture la manière dont Dieu se révèle. Il y a quelque chose de très beau à faire. C'était fait en partie, mais pas entièrement. Et je suis persuadé qu'il y aurait quelque chose de très très grand. Puisque, dans l'Ancien Testament, c'est le mystère de Dieu créateur, le mystère de Dieu dans son unité, qui est révélé en premier lieu. Vous voyez, je prends les 11 premiers chapitres de la Genèse. Le créateur. Le péché face au Créateur. Et c'est vraiment le Créateur qui nous est manifesté là. Et la liberté humaine face au Créateur. Donc c'est le mystère du Créateur. Avec Abraham, c'est le Père. C'est Dieu qui commence sa révélation. Il l'a fait comme Père, tout de suite. Le Créateur est Père, c'est sûr. Mais c'est la révélation qui nous révèle la paternité. Alors vous avez tout de suite cette relation personnelle tellement forte. Et découvrir ces trois. Je devais faire hier une conférence sur la paternité à Neuilly. Alors, c'est un public assez particulier. J'avais dit que j'avais hésité de faire les trois pères, Abraham, Isaac et Jacob. C'est vrai. Et Dieu se révèle à l'homme en révélant à l'homme ce qu'il est. C'est le grand principe, ça. Pour découvrir le mystère de Dieu, puisque créer l'image de Dieu. Et alors, ces trois pères, vous autre aspect de la paternité qui serait très intéressant à creuser. Qui sont très grands, qui sont très beaux. Vous voyez, c'est dans la Genèse, à la fin de la Genèse, où il y a les passages de la plus grande tendresse avec Jacob. Jacob, c'est un père extraordinaire. Extraordinaire. Il avait une mère de Kittir, évidemment. Mais c'est un père qui... Mais c'est toute la fécondité, toute la tendresse avec Isaac. Mais là, il y a une relation de paternité qui est assez extraordinaire. Je ne crois pas qu'en théologie biblique, que ça a été fait, vous voyez. C'est là où on voit qu'il y a de la matière. Hein. Ce n'est pas tellement du côté de la théologie scientifique. Hein. C'est de ce côté-là. Du côté de la théologie scientifique, nous faisons tout notre effort pour entrer dedans. Mais vous ferez difficilement quelque chose de mieux. Avec toute la scolastique a voulu broder autour de la somme de ce devoir. Ça a tellement bien brodé que, au bout d'un certain temps, la dentelle s'en va dans tous les sens et on n'est plus que devant des solutions très, très secondaires. Quand vous dites, regardez la scolastique décadente hein, d'un biloir. Mettez votre nez une fois dans le biloir. Quoi. Qu'on voit ce que c'est. Dans Jean de Saint-Thomas aussi, mais alors là, il y a de la noblesse. Dans Cacheton aussi. Dans tout est en latin. C'est un peu plus difficile. Mais il faut mettre son nez là-dedans pour comprendre. Parce qu'autrement, vous recevez vous stouze. Parce que la tique, c'est une vieille chose. Non, il faut essayer d'entrer pousser les vieux meubles. Ou une fois par an, on épouse les vieux meubles. Alors, une fois, on regarde Biloir. C'est un scolastique du 17e siècle, très très respectable. Jean de Saint-Thomas, il faut au moins avoir une fois dans sa vie, regarder un peu ce que c'est. Puis vous comprendrez que on a tellement été séduit par la théologie scientifique de Saint-Thomas qu'on a tout réduit à ça. Les pères actuels que je connais, qui étaient à Fribourg, m'ont dit ouvertement, la théologie pour moi, c'est la somme théologie de Saint-Thomas. Moi, je lève les bras au ciel quand on me dit ça. Ça prouve qu'ils ne comprennent pas du tout comment ce que c'est que la doctrine en sacra, la théologie, science de l'Église. Bon, alors voyez, les pères, avec Moïse, le législateur, Dieu législateur, Dieu qui donne la loi, puisque c'est avec le doigt de Dieu que les tables de la loi ont été écrites. Tout le mystère de la justice de Dieu, puisque ça c'est le mystère de la justice de Dieu, avec le mystère de l'adoration. Et ainsi de suite. Vous voyez, vous pouvez arriver en étudiant progressivement chacun de ces livres, découvrir progressivement tout le mystère du Dede Uno. On l'a fait, c'est Coppens qui a fait ça à Rome, qui a voulu mettre en parallèle le Dede Uno de Saint Thomas avec la révélation. En voyant que tout ce que Saint Thomas dit est dans la révélation, on en est bien évident. Pour moi, ça ne pose pas de problème. Mais tous les textes dans l'ordre de la théologie scientifique sur Dieu, vous comprenez la terrible erreur. Et l'erreur est visible. Alors on voit la simplicité. Il prend l'ordre de Saint Thomas, la simplicité. Aucun texte. Il aurait dû tout de suite comprendre que, justement, c'est tout à fait autre chose. On va le voir. Dans un instant, la simplicité ne s'est pas révélée, Dieu est simple. Dieu est tout à fait simple, c'est la conclusion théologique. On commence par le Créateur, donc c'est la toute-puissance de Dieu. quasiment tous les livres. Job, quand vous lisez un livre de l'Écriture, posez-vous la question, qu'est-ce que ce livre me dit de propre sur Dieu? Et faites-vous à vous-même progressivement cette révélation successive sur le mystère de Dieu à travers tous les livres de la Bible. C'est une excellente question. Parce que en même temps, puisque chaque fois que Dieu se révèle, il révèle à l'homme ce qu'il est. Et chaque fois qu'il révèle à l'homme ce qu'il est, il se révèle. C'est ça qui doit commander toute notre théologie biblique sur le mystère de Dieu. Et chaque fois que vous découvrez quelque chose du mystère de Dieu, vous découvrez quelque chose du mystère de l'homme, créé à l'image de Dieu. Bon. Alors, je ne prends pas le détail. Ça ne conduirait beaucoup trop loin. Mais il faut que ça. Posez-vous la question en théologie mystique. En théologie mystique, on posera le problème de Dieu par rapport au Père, puisque c'est Jésus à la croix qui nous révèle le Père. Je crois que le mystère de Dieu n'apparaîtra que comme créateur. Très peu de choses. Et dans la création, parce qu'en théologie mystique, nécessairement, on parle de l'adoration et donc du créateur. Puisque c'est la révélation du mystère de Dieu et le retour à Dieu au terme. Le vado ad patrem. Jésus ne dit pas qu'il retourne vers le Créateur. Il était toujours avec lui. Il retourne vers le Père. Il était toujours aussi avec lui. C'est le vado ad patrem. Oui, c'est vraiment le mystère de la paternité. En théologie mystique. Dieu est vu comme Père. Au sens le plus fort. Et vous verriez, alors à ce moment-là, toutes les qualités du Père. Ça, oui. On peut reprendre tous les attributs divins dans le milieu de la paternité. C'est surtout en théologie scientifique que le traité de Dieu prend toute son importance. Pourquoi? Parce que c'est à l'égard du mystère de Dieu que la théologie scientifique se structure. Parfaitement. On a une véritable théologie scientifique subalternée à l'égard du mystère de Dieu. Parce que cette théologie scientifique ne dit que le quomodo non sit. Alors voyez, connaissance scientifique, c'est fameux. Qu'est-ce qu'elle dit de Dieu? Elle ne dit pas le cuir. Normalement, la science dit le cuir. Elle dit le commodo non sit. Comment Dieu n'est pas. C'est la science du comment. Comment Dieu n'est pas. Alors ça explique, vous voyez, combien c'est insatisfaisant pour notre intelligence humaine. La philosophie dit le quid. Et quand elle découvre Dieu, elle reconnaît que c'est quelque chose d'ultime vers lequel il tend, mais pas plus. Je ne peux pas dire le quid de Dieu. Je ne peux pas dire le commodo. Oui, je peux dire le commodo. En passant par la négation. Et la théologie scientifique, donc, point de vue doctrine sacrée, montre, il n'y a que ça, la cuite, non. Vous voyez, ça vous fait comprendre, je crois exactement, la coopération de la philosophie par rapport à cette science. photo, elle ne peut pas se servir de principe. Elle ne peut se servir que de rationnels. Qui, lorsque sont attribués à Dieu, rejoignent son comment ? La raison de bien. Quand j'attribue à Dieu, j'ai tout de suite Dieu et le summum bonum, le bien premier. Mais en attribuant cette rationnelle, cette raison de bien à Dieu, j'affirme qu'il est le souverain bien que je ne connais pas. Le mode divin, je ne le connais pas. Donc, c'est une science très pauvre. Une science qui purifie notre imagination d'une façon terrible. Et donc, nous maintient dans l'humilité. Donc, comprenez bien que la théologie scientifique, on peut comprendre ce qu'elle est quand on regarde le traité de Dieu. En théologie scientifique, quel est le premier attribut de Dieu? Pour saint Thomas, la simplicité, qui n'est pas immédiatement révélée. Donc, la conclusion théologique propre de toute la science théologique, Dieu est absolument simple. Dieu est omnino simplex. Il n'y aurait que cette conclusion théologique. La théologie est établie comme théologie scientifique. Revenir à ça, quand j'essaie de comprendre le statut épistémologique de la théologie scientifique, je reviens à cette conclusion de la question 2 de saint Thomas, question 3, saint Thomas. Dieu est absolument simple, omnino simplex. C'est une vraie conclusion théologique, scientifique. Qu'est-ce que ça vous dit? Ça vous dit, en Dieu, aucune composition. Oui, le commando d'un site. En Dieu, aucune composition. Et c'est pour cela que cette question sur la simplicité est si importante. Il faut, assez vite, quand vous faites la théologie, regardez vous-même. Cette question sur la simplicité, c'est capital. Oui, il y a les quatre, les cinq voies, on les a vues, quand même, hein, en philosophie. Donc, vous les regardez encore, mais c'est fait. La question sur la simplicité, elle est capitale. Je crois qu'on ne peut rien comprendre au point de vue critique, point de vue épistémologique. On ne peut pas comprendre ce qu'est le statut propre de la science théologique si on ne voit pas cet article sur la simplicité. C'est ça que je devrais le voir maintenant, parce que ça fait partie de ce que nous faisons comme réflexion. Dieu est absolument simple. C'est merveilleux. Saint Thomas va rassembler dans un cas pathétique toutes les compositions, que vous trouvez en philosophie. Composition de la matière et de la forme. Composition de la nature et de la n'est pas là, mais c'est facile à trouver. Hein. Toutes les compositions. Et chaque fois, Saint Thomas montre que ces compositions n'existent pas en Dieu. Un article négatif à partir de ces compositions. Les compositions, c'est justement, c'est le comment. Comment une réalité physique existe-t-elle? Elle existe dans la matière, la forme. Elle existe ayant une nature et un individu. Toutes ces compositions sont rejetées. Qu'est-ce qui reste? L'acte pur. C'est tout. Ce qui permet de dire que c'est tout à fait simple. Il n'y a aucune composition. Il n'y a aucune composition en Dieu. Et nous voyons à partir de là l'effort de Thomas d'Aquin d'essayer de donner la voie d'éminence. Autrement dit, c'est à l'égard du Dideono que vous trouvez ce que saint Thomas assume en disant que en théologie, on se sert de ce que dit Denis. On connaît Dieu par le mode de la causalité. Per modum causalitatis. Même si vous n'avez pas très bien le latin, vous pouvez savoir ça. Per modum causalitatis. Per modum. Négationis. Per modum eminentiae. Ça, c'est ce que Denis dit. Et c'est ce que saint Thomas prend. Pour connaître Dieu, il faut toujours la causalité. Connaissance scientifique. Je ne quitte jamais le point de vue de mon intelligence reliée à Dieu par l'existé, par l'être, être en acte. Puis, je nie tout ce qui m'est donné dans l'expérience, l'indication de toutes les modalités que je connais. Et à partir de cette négation, une certaine lumière d'éminence. Thomas ne conclut pas en Dieu aucune composition. Il dit en Dieu omnino simplex, une simplicité absolue. Quelle différence y a-t-il entre ces deux affirmations? En Dieu aucune composition. Dieu est tout à fait simple. Voyez le passage de la négation à l'éminence. Vous voyez ça, j'espère. Dieu est tout à fait simple. C'est affirmé de façon positive. La simplicité. Est-ce que c'est une qualité, la simplicité? Qualité éminente. Il n'y a que ce qui est premier qui est simple. C'est l'apanage du premier. Dès que vous êtes second, vous êtes plus simple. Le premier, là, est simple. Second, il est relatif au premier. Troisième, ils sont tous relatifs. Le premier, il peut être simple. C'est l'apanage du premier, la simplicité. Comme tu es premier d'une façon absolue, tout à fait simple. Mais il y a donc, dans l'affirmation tout à fait simple, quelque chose de nouveau qui n'est pas la négation. Je dis ça parce que c'est très important à bien saisir l'ordre de ces trois professeur, le père Sertilange. Et le père Sertilange, lui, n'acceptait pas cet ordre-là. Plus exactement, il n'en a jamais parlé. Et pour lui, c'était comme ça. Un, deux, trois. Tout simplement, se terminait par la voie de négation. Alors vous voyez, comme ça, il n'y a plus d'analogie. Et toute une série de thomistes, qu'on appelle les thomistes inférieurs, prennent cet ordre-là. Alors que je crois qu'il faut prendre l'ordre que je vous ai donné. Pas parce que je vous le donne, mais parce que saint Thomas agit comme ça. Regardez, c'est pour ça que je dis, regardez, une fois que vous avez un tout petit peu de temps, si ça existe, une fois. Oui, une journée de désert, pourquoi pas? Parce que c'est beau de contempler la simplicité de Dieu. Vous savez, ça vous rajeunit. C'est tellement compliqué, une vie commune. C'est tellement compliqué. Parce qu'on est beaucoup. Et absolument simple, c'est fou. Tu es absolument simple. C'est là, vous voyez, l'apport de la théologie scientifique par rapport à la révélation. C'est que la simplicité, c'est la pureté. Quand vous dites simplicité plus amour, c'est la pureté. Simplicité plus perfection, l'intégrité absolue. Vous voyez, la simplicité, c'est le premier, ça s'ajoute à tous les autres. Ah, c'est quelque chose d'extraordinaire, ça. D'autres attributs impliquent la simplicité. Tu es simple dans ta connaissance. Nous, on est tellement compliqué. Tu es absolument simple dans son amour, dans sa bonté. Oui, alors vous trouvez la pureté de Dieu. Si vous contemplez la simplicité de Dieu, vous trouvez la pureté. Et c'est merveilleux. Voir que c'est la première conclusion d'une théologie scientifique. Et c'est ça qui constitue la théologie comme théologie scientifique. Ce qui nie la théologie scientifique, dites, Dieu est absolument ça. En théologie biblique, vous ne pouvez pas le dire. Vous pouvez le dire qu'en théologie scientifique. C'est l'affinement de l'intelligence à l'égard de Dieu qui aboutit à cette affirmation. Donc, comprenez bien la structure de l'intelligence scientifique à l'égard de cette première question. Donc le point de départ. C'est toujours le point de départ qu'on sait le mieux. Et saint Thomas l'a soigné, cette question-là, je vous affirme. On voit très bien, il établit une théologie scientifique n'existe que s'il y a une conclusion scientifique. Et quelle est la première conclusion scientifique? Dieu est absolument saint. Et ceci à travers toute la somme. Je ne te fais pas nombre. Seconde conclusion scientifique, Dieu est perfectissimum. Alors vous voyez là, vous trouvez bien le mode d'éminence. C'est que saint Thomas dit omnino simplex. Et il dit, Père sujet très parfait. Et très, tout à fait simple. Pourquoi vous dites pas très simple? Et que vous dites tout à fait simple. Pourquoi vous dites pas tout à fait parfait? Vous dites très parfait. Là, vous comprenez le mat d'éminence. Ce n'est pas la négation qui me fait dire ça. C'est le mat d'éminence. C'est assez étonnant. Puis quand il s'agit de la bonté, sumum bonum. Sumum bonum. Il est bon, non pas très bon, non pas tout à fait bon, sumum. Dans l'ordre de la bonté, il est maxime étalé. Il touche le sommet. Oui. C'est là où on voit ce que c'est que ce mode d'éminence. Et ça, c'est quand même l'ange des villes, la finesse d'intelligence de saint Thomas. Oui. Alors, vous avez tous les attributs de Dieu. Il faut une fois les relever, hein, et avoir votre litanie. On devrait avoir notre petite litanie comme ça, moi, je trouve, à l'école Saint-Jean. On prend des petites compenses, c'est des louanges. Il en demanderait quelqu'un qui aurait un sens très fort, musical, et faire une petite composition de tous les grands attributs. Moi, je trouve ça admirable. C'est notre psaume. Non, comme ça, quantique, comme ça, qui serait... Que... Et alors, hein, avec le lien, vous voyez. c'est quand même quelque chose. Hein. Et alors, on a laissé ça comme ça, pourrir. Alors que c'est admirable, cette grande litanie sur Dieu. Dieu est absolument saint. Dieu est très parfait. Dieu est souverainement bon, et ainsi de suite. Alors, essayez de faire ça. Ce serait la litanie de l'école Saint-Jean. C'est beau. Et alors, on commence à comprendre que ce travail de saint Thomas n'est pas inutile, hein, qu'il met notre intelligence en état de contemplation vis-à-vis de Dieu. Dieu. Dans sa simplicité. Oui, c'est vraiment, vous voyez, ce serait une liturgie métaphysique. Un appendice à la thèse, n'est-ce pas? Une liturgie métaphysique, les grandes louanges de Dieu. Moi, je pense beaucoup à ça. Parce que je trouve que ça nous donne, c'est comme un air en haut d'une montagne, on respire. On ferait ça toutes les semaines, n'est-ce pas? À la fin du dernier cours, je mettrais 5 minutes avant, ça ne prendrait pas plus de 5 minutes. Mais quelque chose, hein, faudrait que ce soit chanté avec un élan extraordinaire. Tous les attributs de Dieu. Alors, ce qui est très intéressant à faire, je ne le fais pas ici non plus, c'est de voir la différence de cet ordre et ce qu'on pourrait dire en théologie naturelle. Évidemment, tout se termine. Dieu est tout puissant. C'est titanie. Alors là, il faudrait que ça puisse partir dans tous les sens. Dieu est, c'est la toute puissance de Dieu. Vous voyez, la théologie biblique commence par la toute puissance. Et la théologie scientifique se termine par la toute puissance. C'est quand même curieux, ces choses-là. Parce que la théologie biblique, Dieu nous enseigne, c'est l'ordre pédagogique, alors que la théologie scientifique, c'est l'ordre de nature, de perfection. Comprenons que toute cette grande théologie contemplative sur Dieu nous montre les manières d'exister de Dieu. On dit les attributs de Dieu, On peut le dire, parce que de fait, on attribue tout ça à Dieu. Mais pour comprendre, ce que l'attribut de Dieu, c'est encore un langage logique. Il vaut mieux dire les manières d'exister de Dieu. Et on loue Dieu d'exister d'une manière absolument simple, très parfaite. Pour nous, il y a une antinomie entre simplicité et perfection. Vous savez bien. On doit opter pour la simplicité. On doit opter pour la perfection. Il y a des gens qui sont perfectionnistes, psychologiquement. Alors, de temps en temps, c'est bon pour eux de chanter que Dieu est absolument simple. Ça, ça les guérirait complètement de ce perfectionnisme. Il y a une spiritualité de la simplicité. Il y a une spiritualité de la perfection. Après, ce mystère de Dieu en lui-même, c'est le mystère de la très sainte Trinité. Les deux traités, pour saint Thomas, ne font qu'un. C'est nous, hein, point de vue scolaire. Mais ça ne fait qu'un. Parce que c'est Dieu. Et Dieu est un, et Dieu est trois. Dieu est absolument simple, et Dieu implique les trois personnes. Très très important de ne pas séparer ce qui est un, mais comprendre que c'est autre chose. Oui, attendez, alors avant de passer à ça, ce qui est extraordinairement remarquable, les attributs de Dieu tels que saint Thomas nous les donne. Que vous voyez que saint Thomas se sert de toutes les parties de la philosophie. Donc, toutes les parties de la philosophie proclament les louanges de Dieu, les manières d'exister de Dieu. Toutes les parties de la philosophie. En passant toujours par la sagesse. Tout à fait puissant. C'est Dieu en tant qu'artiste. La sagesse. C'est Dieu en tant qu'artiste. Et c'est Dieu aussi en tant que contemplatif. La sagesse, la contemplation. La simplicité, la perfection et la bonté relèvent de la métaphysique. Puisque en métaphysique, on voit que la substance est composée. Dieu a une substance simple. En métaphysique, on voit l'être en acte et en puissance. C'est la perfection. Et la bonté. Puis, l'infini. C'est la physique, philosophie de la nature. Toutes les réalités que je constate sont finies. Dieu est infini. Dieu est immobile. L'infini, l'omniprésence, l'immutabilité et l'éternité. C'est toute la philosophie de la nature qui proclame ça. Dans la transcendance. Puis vous avez la philosophie du vivant, la philosophie éthique et la philosophie politique. Toutes les parties de la philosophie sont mobilisées pour le Te Deum de saint Thomas. C'est pour ça que je vous dis, c'est bien le traité de Dieu en lui-même qui me donne la structure de la théologie. C'est qu'il me semble qu'on n'a pas mis assez en lumière. La Trinité. Alors, la Trinité, voir pourquoi le mystère de la très sainte Trinité n'est annoncé que d'une manière énigmatique dans l'Ancien Testament. parlé tout de suite à Abraham qu'ils étaient trois dans l'unité. Au chêne de Mamré, Abraham a dû comprendre certaines choses, mystiquement, symboliquement. Ils sont trois et il n'y en a qu'un. C'est sûr, quand on a une vision comme un membre, vous voyez, dans une petite vision comme un membre, c'est bien. L'annonce après, de la naissance d'Isaac. Vous voyez, c'est curieux de voir que la première préfiguration de la très sainte Trinité est liée à la révélation de la fécondité. Ça, c'est très intéressant, théologie publique. Et vous pouvez voir toutes les préfigurations de la très sainte Trinité. Il y en a une, c'est sûr, là, Abraham. Mais il y a les trois patriarches qui préfigurent aussi. Et qui sont liés encore à la fécondité. Les 12 tribus d'Israël. En théologie biblique, voir que ce que Jésus vient révéler en premier lieu, c'est le mystère du Père, de sa filiation. Alors la place des trois personnes dans les écrits du Nouveau Testament. Ça a été beaucoup plus fait. Mais ça a été fait au niveau, c'est ça, exégétique, pas au niveau théologique. Au niveau exégétique, c'est intéressant, mais vous savez, point de vue exégétique, ils vont très loin. Ils disent que il y a, dans Saint Jean, à propos du paraclet, que vraiment, la révélation de la troisième personne de Dieu est faite. Alors que je crois qu'elle est faite beaucoup plus vite. Dans une théologie biblique. C'est un problème intéressant. Les frontières entre exégèse et théologie publique, c'est là où il y a des affrontements constamment. Il faut bien comprendre que la théologie publique doit se faire dans la lumière.